France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Feu rouge pour l'autoroute A69, le chantier qui doit relier Toulouse à Castres est illégal, dit le tribunal administratif de Toulouse. À l'instant, tout cela, après 2 ans de chantier, c'est un coup de tonnerre sur place. Explication à suivre. La réponse de l'Union européenne à Donald Trump qui promet une hausse des droits de douane. Nous serons à Bruxelles, mais aussi au salon de l'agriculture avec des agriculteurs qui accueillaient ce matin une figure du trumpisme en France. À suivre encore, les victimes de Notre-Dame de Bétarame près de Pau, reçues ce matin par le procureur avec à leur tête Alain Esquer, leur porte-parole.
Je suis très ému de voir tous mes camarades qui sont derrière moi. Depuis longtemps, on est tous éprouvés. Mais je suis très fier de toutes ces victimes qui sont à mes côtés pour ce combat.
Nous serons au palais de justice de Pau dans quelques minutes. L'arrestation d'Antonio Ferrara en Belgique ces dernières heures, suspecté d'un projet de braquage. Les élus corses qui planchent aujourd'hui sur des mesures anti-mafia. La mort de l'acteur américain Gene Hackman, le méchant d'Hollywood. Et puis la Tour Eiffel et cette attraction temporaire particulièrement effrayante.
Hein ? Je regarde pas en bas ! Ça bouge, j'ai les jambes qui tremblent, France Inter. On a une vue formidable.
On va vous expliquer ce qui lui fait si peur. À partir de 13h30, l'une des 10 meilleures profs du monde est avec nous. Ce n'est pas moi qui le dis, mais l'UNESCO qui a organisé ce concours. Céline Allaire est notre invitée. 10 ans qu'elle propose des petits déjeuners gratuits à ses élèves dans son école de Strasbourg. C'est un projet qui fait tache d'huile et qui lui a donc valu cette distinction il y a quelques jours. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h50, c'est la France. Le Maroc, invité d'honneur du Salon de l'Agriculture, Marie-Luce Ribot nous parle de l'engouement en France pour la cuisine marocaine. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, la comédienne Jeanne Savary, Guy Marchand et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le chantier de l'autoroute A69 s'étend déjà sur des dizaines de kilomètres entre Toulouse et Castres, mais il va devoir s'arrêter. La décision est tombée il y a quelques minutes. Le tribunal administratif de Toulouse a décidé de suspendre et d'annuler l'arrêté préfectoral qui encadre ce chantier. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
C'est une décision très importante parce que c'est la première fois qu'une infrastructure routière de cette ampleur voit son autorisation annulée par la justice.
Oui, après 2 ans de chantier, des années de contestation, des manifestations, des occupations d'arbres par ceux qu'on appelle les écureuils, grève de la faim, pétitions et autres, eh bien, vous le disiez, la dizaine d'associations qui contestaient l'autorisation environnementale accordée au chantier, autrement dit le feu vert, eh bien, ce collectif obtient gain de cause. Le tribunal administratif de Toulouse a suivi les conclusions du rapporteur public à l'audience du 18 février. Il n'y a pas de ce qu'on appelle RIPIM, c'est-à-dire de raison impérative d'intérêt public majeur qui justifie d'autoriser ces 53 km d'autoroute entre Toulouse et Castres. C'est un tournant, les opposants parlent d'une victoire historique, mais ce n'est pas le dernier chapitre de ce feuilleton judiciaire. Le concessionnaire Atosca peut toujours faire appel, il est vraisemblable qu'il le fasse. À terme, le dossier A69 pourrait même aller jusqu'au Conseil d'État, ça voudrait dire des années de procédure en plus. Mais en attendant, les opposants ont bien l'intention de savourer leur victoire. Ce soir, ce sera lors d'une grande fête.
Et justement, parmi ces opposants, ou en tout cas leurs représentants, l'avocate Alice Terras, sa réaction, on a pu la joindre il y a quelques minutes.
C'est une immense satisfaction. Surpris ? Alors, en droit, non, ce n'est pas une surprise. Parce que véritablement, dans ce dossier, on savait que la légalité était extrêmement fragile. Elle a été d'ailleurs confirmée par 2 fois par la rapporteure publique. On a eu quand même 2 audiences au cours desquelles la rapporteure publique a confirmé l'illégalité. Donc, si vous voulez, en droit, c'est pas une surprise. Maintenant, le fait que la juridiction ait eu ce courage d'annuler alors que le chantier est déjà très, très avancé, quelque part, c'est une forme de surprise. Dans l'histoire des contentieux contre les autoroutes, il n'y en a aucune qui a abouti à une annulation, notamment en cours de chantier. Ça fera date de ce point de vue-là également.
Alice Terras, avocate des opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, donc après la décision ce matin du tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral. De l'autoroute à la voiture, il n'y a qu'un pas, et la mauvaise santé, la mauvaise passe du groupe automobile Stellantis. C'est le 3e groupe automobile mondial, mais il accumule les mauvaises nouvelles ces derniers jours. La production de ses usines Mexique va subir la hausse des droits de douane de Trump. Près de ses véhicules sont rappelés au garage. Beaucoup de ses véhicules, 70 000, rappelés au garage pour des problèmes de moteur. Sans oublier la publication hier de mauvais résultats financiers l'an dernier, avec un bénéfice net en baisse de 70%. Et les salariés de Stellantis ont leur explication sur ces difficultés. Ceux de l'usine d'Ordin, dans le Nord notamment. Ils débrayaient hier pour demander un meilleur paiement de leurs heures supplémentaires. Nina Richard les a rencontrés.
Cela fait 31 ans que Marc travaille ici. Il ne lui reste plus que 6 ans avant la retraite, mais il ne fait déjà plus confiance au groupe Stellantis.
Ah bon, j'étais très fier de venir ici, il y a 30 ans. J'étais fier de travailler pour le groupe Peugeot, de travailler dans une grande usine, mais depuis une dizaine d'années, tout s'est dégradé.
De son côté, Adrien a signé un contrat d'un an à l'usine d'Ordin, et c'est suffisant pour ce jeune homme de 19 ans qui n'envisage pas son avenir dans cette entreprise.
Et niveau organisation de l'usine, c'est pas tip-top. Toujours des arrêts, des manques pièces. J'ai déjà un plan B. Je vais faire les pompiers.
Donc tu comptes pas rester en fait ?
Non, totalement pas. Quand on voit l'organisation qu'il y a ici, on sait très bien qu'on n'a pas d'avenir là-dedans.
Selon Franck Théry, secrétaire général CGT du site, s'il y a des scandales, c'est parce que l'entreprise a cherché à faire des économies.
Si Stellantis a la une des journaux, c'est de la responsabilité de la direction générale. Quand on nous demande de monter une courroie de distribution au lieu d'une chaîne de distribution, on la monte, on n'a pas le choix. Donc on n'est pas responsable de ces erreurs qu'elle peut faire pour faire plus de fric.
Toutes ces erreurs entachent l'image de la marque aux yeux de Pamela, opératrice depuis 9 ans, également syndiqué CGT.
Moi aussi j'ai honte de tout ce qui se passe. Honte de se dire que je roule en Peugeot ou en Citroën et puis je me demande même si je vais pas aller ailleurs.
Sans son mandat de déléguée syndicale qui se termine dans un an et demi, elle confie qu'elle serait déjà partie.
Reportage ici Nord, la santé du marché de l'automobile. Au cœur de deux sujets du jour, les droits de douane donc annoncés hier soir par Trump pour l'Union Européenne et puis la dégringolade de la sidérurgie européenne puisque sans acier, pas de voiture. On voit ça avec Fabien Cazot à Bruxelles et Claire Chaudière ici même. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Claire, plusieurs ministres européens de l'industrie sont réunis en ce moment à Paris. C'est une réunion de crise. Ils demandent davantage de soutien à l'Union européenne.
Oui, avec ce message, il faut agir bien plus vite et bien plus fort pour éviter l'écroulement du secteur de l'acier. 300 000 emplois en Europe, plus de 15 000 en France. On est tout proche du point de rupture, hein, disent-ils. Situation qualifiée même de dramatique, avec déjà une énorme surproduction et une baisse de la demande d'acier en Europe de 25% en 5 ans. Alors, la future grande banque européenne de la décarbonation annoncée hier à Bruxelles avec 100 milliards en poche pour aider les usines à faire leur transition, c'est bien, mais ce n'est pas assez. On martelait côte à côte les ministres de l'industrie italien, espagnol et le ministre français Marc Ferracci. Écoutez.
Si nous ne faisons rien, des usines fermeront, des emplois disparaîtront et le futur de la production d'acier en Europe sera profondément remis en question dans les toutes prochaines années.
Des fermetures de hauts fourneaux et des suppressions de postes par milliers qui ont d'ailleurs déjà commencé, alertent les ministres, qui appellent donc à des mesures de protection plus efficaces face à la concurrence asiatique, à un ajustement du mécanisme de taxation carbone aux frontières et à des actions plus volontaristes sur les prix de l'énergie qui fait tourner cette industrie. Au même moment, ce matin, Jérôme, les industriels de la chimie, cette fois plus de 400 chefs d'entreprise lançaient eux aussi un cri d'alarme en direction de Bruxelles pour des mesures concrètes et immédiates face à la crise sans précédent que traverse la filière.
Merci Claire Chaudière. L'Union européenne, directement visée hier soir par le nouveau président américain, l'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis, a-t-il dit, avant d'annoncer une hausse des droits de douane prochaine de 25% pour nos produits. Ce qui amène cette question, Fabien Cazot, vous êtes en direct de Bruxelles. Quelles sont les mesures de rétorsion qui sont sur la table ?
Alors, il y en a trois. La première, c'est la riposte automatique du tac au tac, droit de douane contre droit de douane, soit sur les mêmes secteurs que ceux qui seront visés par Donald Trump, soit sur d'autres produits emblématiques de la culture américaine, comme cela avait été le cas d'ailleurs lors de son premier mandat, comme les jus d'orange de son fief de Floride, ou encore le Bourbon ou les Harley Davidson. Ensuite, il y a l'arme lourde, c'est l'instrument anti-coercition commerciale dont l'Union s'est dotée en 2023. Il englobe notamment des restrictions d'accès aux marchés publics européens ou la limitation des activités financières américaines en Europe. Ce mécanisme n'a jamais été activé jusqu'à présent. Enfin, il y a tout ce qui touche à la régulation du numérique, les plateformes, les réseaux sociaux. L'Union européenne pourrait décider de muscler ses enquêtes, voire ses sanctions contre les géants américains de ce secteur.
Au fond, Fabien, Donald Trump nous dit « À mes yeux, l'Union européenne n'existe pas. Il n'y a que des pays européens. »
Oui, et c'est tout le jeu de son administration et de sa diplomatie, hein, de s'employer à conclure des deals bilatéraux avec les pays européens un par un, et d'encourager, on l'a encore vu en Allemagne avec le soutien du vice-président J.D. Vance à l'AFD d'extrême droite, les droites nationalistes hostiles à l'intégration européenne. Parmi les responsables européens, certains affichent clairement leur soutien à Donald Trump, le très droitier Viktor Orban à Budapest, ou encore l'italienne Giorgia Meloni, qui était présente à l'investiture de Donald Trump le mois dernier, des dirigeants qui assument bien volontiers de regarder davantage vers Washington que vers Bruxelles.
Merci Fabien Cazot, correspondant de France Inter à Bruxelles. Alors que disent précisément les souverainistes européens de ce nouveau discours américain, ceux qui se disent proches de la pensée de Trump en France, à droite et à l'extrême droite par exemple. Ce matin, l'eurodéputé Reconquête, Sarah Knafo, était en visite au Salon de l'agriculture. Bonjour Nicolas Piquet.
Bonjour à tous.
Vous l'avez suivi, c'était un peu le Trumpisme au milieu des vaches.
Et la nuée de journalistes et de curieux autour d'elle n'est pas immense, mais l'eurodéputée déambule entre les vaches et les stands de fromage et n'hésite pas à assumer son soutien à la politique de Donald Trump face aux agriculteurs.
La première des choses qu'il me dit, c'est on espère qu'on aura des dirigeants qui seront capables de nous défendre. Et si on laisse Trump dire plus 25% et que nous on répond juste libre-échange, on veut pas, à ce moment-là on se fera pas respecter.
Elle répète qu'elle soutient le président américain et apprécie sa sincérité. Il l'avait annoncé, il tient sa promesse. Et Sarah Knafo se verrait bien faire pareil.
Je pense qu'il est grand temps que chez nous ici en France, on élise quelqu'un qui soit élu pour défendre les intérêts exclusivement français, les intérêts des producteurs français. Ça m'étonne pas qu'il le fasse. Il a dit l'Amérique d'abord, maintenant à nous de dire la France d'abord.
Et ses arguments pourtant inquiètent. Clément, assis sur une chaise de camping devant ses vaches, il est éleveur laitier dans le Jura.
Que ce soit la viande, les céréales, tout ça, on va forcément être impacté si on veut commencer à répondre et vouloir être toujours plus haut que ce qu'eux ils font. Oui.
Philippe, agriculteur à Poitiers, lui ne veut même pas en entendre parler.
C'est de la spéculation verbale, politique, ni plus ni moins, et c'est tout parce qu'ils cherchent des voix électorales, ces gens-là. 25%, vous imaginez ?
Sarah Knafo n'est pas là pour l'entendre et lui assume qu'il n'est pas mécontent de ne pas lui parler.
Nicolas Piquet au Salon de l'agriculture pour Inter avec les moyens techniques de Romain Luquiens. Au rayon écho, le gros morceau du jour, c'est cette première réunion à partir de 14h dans les locaux du Premier ministre sur les retraites. Le coup d'envoi de 3 mois de négociations pour réécrire la réforme de 2023, c'était une concession de François Bayrou juste après sa nomination. Mais avec cette condition qu'il a ajoutée le Premier ministre à la dernière minute hier soir, que le système soit à nouveau à l'équilibre en 2030. Pour cette année, la Cour des comptes nous dit que le déficit va atteindre 6,6 milliards d'euros. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Bon, les syndicats seront tout de même autour de la table tout à l'heure.
Oui, pour l'instant, pas de déclaration fracassante, ni de refus de participer. Notamment FO, qui avait un temps hésité à venir pour différentes raisons, sera bien autour de la table, confirme le syndicat. En tout cas, cette lettre de François Bayrou ne semble pas changer l'état d'esprit de la CGT. C'est ce qu'a expliqué Denis Gravouille ce matin sur France Info. C'est son négociateur sur ce dossier et il compte bien toujours réclamer l'abrogation de la réforme et un retour de l'âge de départ à 62 ans.
Le Premier ministre charge la barque avec régler un problème que les gouvernements n'ont jamais réussi à régler. On va en discuter, mais on a des propositions de financement.
À moins d'une heure maintenant du début des discussions, le négociateur de la CFDT se dit, lui, déterminé à relever le défi. Et Yvan Ricordo reste optimiste.
Bien sûr qu'on peut arriver à un résultat intéressant pour les salariés et intéressant même pour les entreprises. On peut, dans les 3 mois qui viennent, allier à la fois ambition sociale et en même temps une responsabilité économique.
Contacté, le MEDEF de son côté voit d'un bon œil l'objectif fixé par le Premier ministre. Ça nous paraît être du bon sens, confie l'un de ses représentants, compte tenu selon lui des chiffres avancés par la Cour des comptes et du poids que représentent les retraites. Toutefois, l'organisation patronale l'assure, avec cette donnée supplémentaire, de devoir établir l'équilibre financier du système de retraite pour 2030. Oui, trouver un accord sera difficile compte tenu de la position des syndicats.
Merci Luc Chemla. Une cinquantaine d'anciens de l'école Notre-Dame de Bétaram, une cinquantaine de victimes de violences physiques et sexuelles réunies ce matin au palais de justice de Pau. Sentiments mêlés, la douleur des souvenirs, le soulagement de ne plus être seul depuis la révélation du scandale, l'espoir aussi que la justice punisse les coupables. Précisément, ils ont été reçus par le procureur de la République de Pau, c'est lui qui dirige l'enquête. Sur place, Delphine Evenoux.
Ce matin, le procureur est sorti du tribunal pour accueillir les victimes sur les marches du palais de justice de Pau. Un moment solennel, certains très impliqués dans le combat depuis plus d'un an semblent presque prendre la mesure aujourd'hui de cette tentaculaire affaire Bétaram, comme Pascal Gély, élève en 89-90.
J'en tremble et c'est super émouvant en fait. On entend ce nombre hallucinant de plaintes,
Et là, on voit des visages, quoi.
La réunion a duré plus de 3 heures. 3 heures intenses, commente à la sortie Rodolphe Jarry, le procureur de la République de Pau.
On a évoqué la prescription, qui a été évidemment au centre des débats. Donc ça a été un point d'explication pédagogique important. Et puis on a essayé de répondre autant que faire se peut aux questions.
Les victimes attendaient beaucoup de cet échange avec le procureur et les enquêteurs. Elles ressortent ébranlées. Alain Esquer, cofondateur du collectif des anciens de Bétarame, lui-même élève entre 80 et 86.
Les victimes sont partagées entre immenses peines et sentiments de colère, notamment sur les questions de prescription. Nous demandons solennellement à chaque parent d'élève ou d'élève plus jeune à se manifester auprès de la PAVIM, Association Paloise des Victimes.
Une ligne ouverte 7 jours sur 7 est mise en place. Les plaignants comptent sur de nouveaux témoignages. Elles appellent aussi la congrégation de Bétarame à sortir de son silence.
La justice française, qui dans la mort de Rémi Fraisse à Sivens en 2014, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'État. L'enquête s'était soldée par un non-lieu. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle a condamné la France ce matin. En l'occurrence, l'opération de maintien de l'ordre menée par la gendarmerie, opération qui a, selon les juges européens, provoqué la mort du militant écologiste. C'était lors d'affrontements entre militants et forces de l'ordre autour du barrage dans le Tarn. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
C'est l'aboutissement de 10 ans de combats judiciaires pour la famille de Rémi Fraisse.
Oui, un aboutissement que salue cette famille par la voix de ses avocats, dont fait partie Claire Dujardin.
La Cour vient confirmer que la position de la famille était la bonne, à savoir, en fait, ce n'est pas un accident et ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est parce que cette opération de maintien d'ordre a été menée dans ces conditions-là que leur fils, leur frère est mort.
Rémi Fraisse a été tué par l'explosion d'une grenade des gendarmes qui s'est coincée entre sa nuque et son sac, une grenade depuis interdite. Et la Cour européenne dit que les textes pour encadrer ce type d'opération étaient à l'époque trop flous.
Par exemple, que l'opération était basée sur le fait que les gendarmes devaient défendre le terrain. Les représentants de la force publique ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. C'est dans le code de sécurité intérieure. Par exemple, cette définition n'est pas suffisamment précise.
La Cour note aussi des défaillances dans la chaîne de commandement. Alors, depuis 2014, un schéma national de maintien de l'ordre a été établi. Mais même si cette décision européenne n'a rien de contraignant, elle peut encore aujourd'hui servir de guide aux autorités françaises, estime Claire Dujardin.
Si l'État français avait apporté une attention particulière à cet arrêt, eh bien, il faudrait réformer sa doctrine de maintien de l'ordre. On ne rentre pas toujours dans les critères fixés par la Cour européenne des droits de l'homme.
Et selon l'avocate, c'est la première fois que la France est condamnée à l'échelle européenne pour une opération de maintien de l'ordre.
Merci Ariane Grissel. Une enquête pour homicide volontaire ouverte à Charleville-Mézières. Après la découverte hier du corps d'une femme et d'un enfant en bas âge, les corps ont été retrouvés sur une friche en centre-ville, indiquent nos confrères de l'Ardennais. L'an dernier, le nombre de victimes de violences sexuelles en France a augmenté de 7%. Celui des violences physiques, lui, est resté stable par rapport à 2023. La moitié de ces violences physiques ont eu lieu dans le cadre familial. Antonio Ferrara, à nouveau dans les mains de la police française. Le braqueur multirécidiviste, 51 ans, a été interpellé en Belgique par des enquêteurs français, 3 ans après sa libération. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour.
Ferrara suspecté de préparer un projet d'attaque en Allemagne.
Oui, et d'ailleurs, l'arrestation d'Antonio Ferrara a eu lieu ce matin dans l'est de la Belgique, dans la partie germanophone, située près de la frontière allemande, non loin d'Aix-la-Chapelle. La police fédérale belge confirme que l'opération a eu lieu dans le centre de la ville de Peine, avec des unités spéciales belges, qu'un des policiers belges a été légèrement blessé après avoir été percuté par un véhicule des suspects. Des policiers français étaient aussi présents, membres de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, l'ancienne Office central pour la répression du banditisme. Les images de la télévision germanophone belge montre des voitures à l'arrêt et une tache de sang sur la chaussée. 8 autres personnes, des Belges et des Français, ont été arrêtés en même temps qu'Antonio Ferrara. Et suite à un échange de coups de feu, un des suspects a été légèrement blessé par balle. Le parquet de Bruxelles est chargé de la partie belge de l'enquête, mais celle-ci a été déclenchée par la JIRS de Paris, la juridiction interrégionale spécialisée, pour un projet d'attaque contre un centre fort en Allemagne, lieu où les banques rassemblent leurs liquidités.
Précision signée Pierre Ménazé à Bruxelles pour Inter. Jusqu'où aller pour lutter contre l'emprise de la mafia en Corse? Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Lille, présente aujourd'hui un rapport avec à la clé des mesures, mais elles sont jugées très insuffisantes par les collectifs anti-mafia qui ont vu le jour ces derniers mois. Cette présentation a lieu à l'Assemblée de Corse dans un climat très lourd. Le meurtre d'un jeune pompier, puis d'une étudiante de 18 ans ces dernières semaines, ont soulevé une vague d'émotions d'Ajaccio à Bastia. Bonjour Paul Ortoli.
Bonjour.
Ici Corse, Frequenza Mora. Paul, vous suivez cette session à Ajaccio, à laquelle assiste le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il a même pris la parole ce matin.
Oui, et pourtant le garde des Sceaux n'était pas attendu, mais il s'est invité à la dernière minute à cette session de l'Assemblée de Corse sur les dérives mafieuses. Il a évoqué l'arsenal qu'il veut mettre en place pour lutter contre le crime organisé, avec notamment la création de 50 personnels de justice en Corse, dont 17 magistrats. Ils seront la task force du futur pôle spécialisé contre le crime organisé, qui sera opérationnel à Bastia au 1er janvier 2026, car en Corse, l'État doit juger. Avec un taux de 3,45 homicides pour 100 000 habitants, la Corse est la région la plus criminogène de France métropolitaine, et le ministre a donc promis de concentrer le tir sur la drogue, le blanchiment d'argent ou les violences faites aux personnes. Gérald Darmanin a aussi regardé vers l'Italie et sa justice d'exception. Il s'exprimait juste après l'ancien maire de Palerme, invité lui aussi de la session. Gérald Darmanin a posé les jalons du futur statut de repenti ou de nouvelles techniques d'enquête comme des infiltrations. Une société sans mafia ni mafieux, la proposition a plu aux élus corses qui ont néanmoins rappelé que pendant de trop longues années, l'État a enquêté sur les nationalistes en laissant prospérer le crime organisé.
Merci Paul Ortoli en direct d'Ajaccio pour ces informations. La Corse, c'était l'un des derniers déplacements du pape François, le pape qui, depuis près de deux semaines maintenant, est hospitalisé pour une double pneumonie. Son état de santé s'est légèrement amélioré ces dernières heures, selon le Vatican, qui précise tout de même que le pronostic reste réservé. Bonjour Bruno Tuvik.
Bonjour.
Bruno, vous êtes notre correspondant à Rome. Racontez-nous les coulisses de la communication du Vatican depuis deux semaines maintenant. Est-ce que cette hospitalisation est transparente ?
Alors, le moment clé, c'est l'unique conférence de presse des médecins vendredi dernier. Le professeur Alfieri, qui coordonne les soins, a assuré qu'il n'y avait rien de caché, que François souhaitait que la vérité soit dite. C'est en bonne partie le cas. L'une des raisons en est la crainte au Vatican de perdre la maîtrise de la communication. La semaine dernière, en particulier, les rumeurs se multipliaient. Plus de transparence, donc, avec des limites. Chacun sait que tout n'est pas dit. Un petit arrangement avec la vérité a été repéré à propos de la visite des numéros 2 et 3 du Vatican lundi, annoncé après coup. Sur les 4 points d'information de la journée, seul le bulletin du soir est substantiel et encore 5-10 lignes. Pas un bulletin brut de l'hôpital, mais retravaillé par le Vatican. Très peu de personnes voient le pape, un peu plus échangent avec lui, mais il n'y a pas de fuite à ce stade, aucune image. Reste la question de la capacité de François à assumer sa fonction s'il guérit. Le débat est feutré, ne serait-ce que parce que si des cardinaux appellent à sa démission, cela pourrait être une pression. Et pour que la démission hypothétique soit recevable, il faut que le pape le décide en toute liberté.
Merci Bruno Duvic. En direct de Rome, l'île de la Réunion, placée en alerte cyclonique rouge à partir de 19h heure locale, 16h heure de Paris. Plus personne ne devra circuler sur l'île, à part les forces de l'ordre et les moyens de secours. Voilà ce que nous dit le préfet. Le cyclone doit passer à moins de 50 km de l'île de la Réunion. Rafale jusqu'à 180 km/h et une forte houle également selon le ministère de l'Intérieur.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est une bouffée d'oxygène pour un football français pris à la gorge. La plateforme qui diffuse les matchs, les Britanniques de DAZN, refusaient de payer leur échéance du mois de janvier, 35 millions d'euros, en raison, selon eux, d'un piratage trop important. La Ligue avait saisi la justice et bien finalement, un accord a été trouvé ces dernières heures. Les Britanniques ont fini par payer cette échéance. Lui s'est rendu célèbre pour ses rôles de bad guy à Hollywood. Un très grand acteur américain est donc mort hier aux États-Unis. Il s'agit de Gene Hackman qui s'est éteint à l'âge de 95 ans. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Avant de revenir sur sa carrière, un mot quand même des circonstances de sa mort, circonstances très troubles.
Oui, l'acteur, son épouse, la pianiste Betsy Arakawa, âgée de 63 ans, ainsi que le chien du couple ont été retrouvés sans vie chez eux à Santa Fe au Nouveau-Mexique par une patrouille chargée de venir en aide aux personnes âgées. Les causes de la mort sont encore inconnues. Le shérif du comté va mener une enquête, mais il écarte pour l'instant la piste criminelle.
Voilà, l'enquête dira ce qui s'est passé précisément. Gene Hackman à l'écran, Margot, je l'ai dit, c'était des personnages de gars antipathiques, des salopards.
Oui, on l'a vu en agent de surveillance paranoïaque, en avocat d'affaires véreux, en flic abrasif. Gene Hackman, c'était l'anti-héros par excellence. Premier grand rôle en 1967 dans le Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et déjà une première nomination aux Oscars. Mais le tournant de sa carrière et sa première statuette arrive en 1971 devant la caméra de William Friedkin dans French Connection. Gene Hackman est alors un intraitable inspecteur de la brigade des stupes chargé de nettoyer New York.
All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Come on, move.
Voilà, celui qui avait commencé à jouer sur le tard après un engagement dans les Marines devient alors une véritable gueule du nouvel Hollywood. Gueule de pomme de terre, disait-il lui-même, avec souvent le verbe haut et le revolver à la ceinture. Il décroche son deuxième Oscar en interprétant un shérif brutal dans le western de Clint Eastwood, impitoyable. Nous sommes en 1992. Gene Hackman, c'était ce jeu sans fioritures, à l'instinct. Un seul secret, confiait-il, mettre un peu de soi dans chacun de ses personnages. Mais le meilleur résumé d'un comédien capable de donner autant de profondeur à des rôles de salaud, on le doit sûrement à la critique américaine Pauline Kael. Gene Hackman, écrit-elle, illumine la médiocrité.
Pas de bon film sans bon salaud. Merci Margon Barallon d'avoir retracé la carrière de Gene Hackman. On peut aller au cinéma pour avoir des frissons. On peut aussi, jusqu'au 9 mars, prendre son ticket pour visiter la Tour Eiffel, puisque la Dame de Fer propose un pont suspendu à son premier étage pour ses visiteurs pendant quelques jours. Traversé au-dessus du vide, sur des cordes à 60 mètres de haut, l'attraction temporaire attire en ce moment de nombreux touristes. Et Estelle Romer a testé pour nous.
Au bord du vide, au premier étage,
oh mon Dieu,
Férouz se lance pour ses filles.
Nous entrons dans un tunnel bleu. Si tu m'entends crier, Sarah, tu viens me chercher. Go.
Go sur un pont en corde tendu entre les piliers nord et sud de la Tour Eiffel à 60 mètres de haut.
Hein ? Je regarde pas en bas.
Et on l'entend de loin.
J'ai regardé en bas. Courez pas ! Ça bouge. Ah, là, c'est ça.
Heureusement, traverser, ça va vite. Comptez 2 minutes et la Parisienne ne regrette pas.
Là, on traverse une partie de la Tour Eiffel dans les airs. Ça n'a rien à voir avec la vision habituelle.
On dirait qu'on est sur les nuages.
Les visiteurs défilent et chacun y trouve son compte.
J'ai les jambes qui tremblent, France Inter. On a une vue formidable sur la Tour Montparnasse.
On a l'habitude, effectivement, d'être enfermé derrière tout ce qui est armature, etc. Et là, c'est vrai que d'être vraiment au-dessus du vide, du coup, on voulait essayer de se faire un petit sortie vacances.
Être en immersion, c'est le but de se filer, explique Camille Merlet, directrice d'exploitation du pont.
On a des points de vue déjà vers le bas, vue sur tout le parvis en dessous de la Tour Eiffel. Et on a une vue aussi un peu différente du premier étage de la Tour Eiffel, un peu insolite. On voit bien les piliers de la Tour Eiffel.
L'attraction devient même le plus haut pont urbain de France. Pour le tester, vous avez jusqu'au 9 mars.
Reportage Estelle Romer. Je vous rappelle que c'est gratuit, mais qu'il vaut quand même avoir son ticket pour accéder à la Tour Eiffel. Je vous rappelle l'information principale de ce 13-14 que je vous ai donné il y a un peu moins d'une demi-heure. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce matin l'arrêté préfectoral qui autorise le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Et pour une telle infrastructure routière en France, c'est une première. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas, ça s'améliore. Puis à partir de 13h30, Céline Allaire avec nous. Elle est enseignante en primaire à Strasbourg. Elle vient de terminer dans les 10 finalistes du concours du meilleur prof du monde avec son projet de petit déjeuner gratuit pour les enfants. 01 45 24 7000 pour lui poser toutes vos questions. 13h45, notre feuilleton, on découvre le talent des comédiens de doublage toute cette semaine. C'est Jean-Pierre Michel, la voix de Brad Pitt, qui est avec nous aujourd'hui. On parle notamment de la concurrence de l'intelligence artificielle. 13h56, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour. Jérôme.
Marilus, le Maroc vous inspire?
Oui, Jérôme, entre livres de gastronomie qui revisitent les recettes traditionnelles et restaurants dépouillés de leurs oripeaux folkloriques, la cuisine marocaine devient tendance et plus simple à réaliser au quotidien. Tant mieux, parce qu'elle est saine et ultra savoureuse.
Et avec vous, Frédéric, une comédienne.
Il s'agit de Jeanne Savary, connue notamment pour ses rôles récurrents dans des séries télé. Elle est en ce moment au théâtre, à la scène parisienne, dans En attendant Albert. Et c'est un grand succès de Guy que nous écouterons avec elle, Guy Marchand, la passionnata. Elle admirait beaucoup Guy Marchand, Jeanne Savary.
Ça va nous rappeler Nestor Burma. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je me posais des questions sur le partage de la valeur pour mes salariés. Elodie, ma conseillère Banque Populaire, m'a proposé une solution d'épargne salariale sur mesure, rapide à mettre en place et que je peux piloter en ligne. C'était simple et surtout, ça a fait des heureux.
Accompagner nos clients sur tous les territoires avec des solutions adaptées à leurs besoins, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Radio France, partenaire du Festival international des Jeux, du 28 février au 2 mars, au Palais des Festivals à Cannes. Venez jouer à des milliers de jeux de société, visitez les expositions et assistez à des tournois. Et au cœur du village festival, profitez de la scène avec concerts live, cirque et danse. Plus d'infos sur radiofrance.com.
France Inter, partenaire de A Bicyclette, un film de Mathias Mlekuz.
On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie.
Après la disparition tragique de son fils, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un voyage à vélo.
J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
Une épopée lumineuse qu'ils traverseront avec humour et émotion.
C'est une marche de main triste, hein, c'est une autre de la vie.
À bicyclette, avec Mathias Mlekuz et Philippe Rebaud, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Bon, on se dirige vers un temps plus calme.
Oui, après le défilé de perturbations du début de semaine, les conditions vont devenir de plus en plus anticycloniques jusqu'à la semaine prochaine. Les pluies qui ont balayé le pays hier et une partie de la nuit se sont évacuées. Mais cette perturbation laisse traîner beaucoup de nuages entre l'Aquitaine, l'Occitanie et les Alpes du Nord. D'ailleurs, quelques ondées sont encore possibles sur le sud du Massif central et les Savoies. En Provence, le ciel va se voiler de plus en plus, devenant même laiteux sur l'ouest. Le soleil restera lui généreux en Corse. Après-midi assez ensoleillé également entre le Sud-Bretagne, le Poitou-Charentes, le Centre-Val de Loire et le Nord-Auvergne. Le ciel sera plus variable sur le reste du pays, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses isolées pourront se produire entre la Normandie et le Jura. Mais c'est surtout entre les Hauts-de-France et les Vosges que l'instabilité sera plus marquée, avec des averses assez actives pouvant s'accompagner de grésils et tourner à l'orage. Les températures minimales étaient assez fraîches ce matin. On a même relevé quelques petites gelées. Les gelées seront d'ailleurs un peu plus nombreuses la nuit prochaine. Les maximales sont, elles, plus voisines des normales de saison. Elles sont assez douces dans le sud. Prévoyez 7 à 13 degrés sur la moitié nord et le centre-est et 12 à 18 degrés plus au sud.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Et non, ce ne sont pas les vacances pour tout le monde. La zone B a repris les cours lundi. Dans cette zone B, il y a l'Alsace et Strasbourg. À Strasbourg, quartier Haute-Pierre, il y a l'école Rosa Parks où vous enseignez. Bonjour Céline Allaire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous enseignez Merci. En classe de CM1 et vous avez eu des vacances plutôt chargées car vous étiez à Dubaï pour la finale du prix du meilleur prof du monde. Vous avez figuré parmi les 10 finalistes. Alors vous n'avez pas gagné le trophée, mais votre projet Petit Déjeuner a été mis à l'honneur. Il mérite qu'on en parle, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes avec vous. Vous êtes en direct de Strasbourg dans les locaux de nos confrères d'ici Alsace. Qu'on salue, je salue aussi tous les auditeurs qui sont avec nous et qui peuvent dialoguer directement avec vous, poser toutes leurs questions. 01 45 24 7000, notamment si vous avez des enfants en primaire, questions sur l'enseignement, questions sur le petit-déj, parfois difficile avec des enfants qui n'ont pas toujours envie de manger le matin. Vous passez également par l'application France Inter. Céline Allaire, comment s'est passée la rentrée lundi? Comment est-ce que vous avez été accueillie?
Ah bah, j'ai été accueillie autour d'un petit déjeuner assez festif avec mes élèves que j'ai retrouvés avec joie, qui étaient assez fiers de moi et surtout qui me l'ont dit, donc ça m'a fait du bien. Et puis avec des parents aussi qui sont venus partager ce moment avec nous, donc c'était une rentrée plutôt agréable et joyeuse.
Ils vous ont suivi, vos élèves, dans toute cette aventure?
Alors ils m'ont suivi comme dans toutes mes aventures. Et
vous ne les avez pas amenés à Dubaï, mais ils vous ont quand même suivi.
Ils m'ont suivi par message, par mail, par photo. Ils étaient avec moi tout du long.
C'est dur de reprendre après un tourbillon comme celui-là?
Non, parce que j'adore mon métier et j'adore ce que je fais. Donc pour moi, c'est comme les autres jours et les autres fois. Donc non, c'est pas difficile du tout, bien au contraire.
Alors, cette journée de lundi a commencé, j'ai envie de dire comme toutes les autres, par un petit déjeuner. Vous nous l'avez dit, puisque c'est le projet que vous avez lancé il y a 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Comment débute une journée typique, traditionnelle dans votre classe?
Alors on fait ce projet-là deux fois par semaine, donc dans toute mon école, avec tous mes collègues qui m'ont rejoint et accompagnent pour ce projet depuis plusieurs années. Les enfants arrivent à l'école avant la sonnerie, donc pendant le temps d'accueil des 10 minutes. Ils préparent le petit déjeuner. En amont, ils ont fait les commandes, ils ont créé les menus et puis ils se sont organisés. Ils préparent des paniers repas qu'ils livrent aux autres classes et puis on prend le petit déjeuner et c'est toujours l'occasion de travailler des maths, du français, de la géographie, des sciences. Par exemple, en partageant des tablettes de... Pardon. En partageant des tablettes de chocolat, ou alors en regardant d'où viennent les aliments, on fait de la géographie en étudiant les départements d'outre-mer, donc ça c'est des exemples parmi d'autres. Et puis c'est un moment où on doit travailler ensemble et être collaboratif et coopératif, et ça c'est une compétence énorme à travailler avec les enfants, parce que c'est souvent là où ils ont des difficultés.
Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants en partageant des tablettes de chocolat ?
Les fractions. Alors les fractions, c'est assez abstrait. Quand on commence les fractions, alors au CM1, c'est assez compliqué de comprendre un quart, et puis que deux carreaux de chocolat, ça peut représenter une portion de la tablette entière. Donc c'est des concepts qui sont très abstraits, et le fait de manipuler la tablette de chocolat, tout d'un coup les enfants comprennent facilement ce que ça représente, et c'est une notion qui est très vite assimilée.
Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui vous a incité à lancer ce projet il y a 10 ans ?
Au départ, le fait que très peu d'enfants dans ma classe prenaient un petit déjeuner avant de venir à l'école. Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins d'alimentation et de besoins nutritionnels qu'aujourd'hui. Donc l'idée de départ, c'était de voir d'une part si on en avait besoin, si on avait vraiment besoin de ce repas-là et s'il était efficace et efficient pour notre organisme.
Donc et la première raison, c'est les enfants arrivent et ils ont faim.
Ouais. Oui. Et puis ils sont pas forcément concentrés jusqu'à la fin de la journée. Quand on va faire du sport, ils sont pas forcément dans les meilleures conditions physiologiques. Donc c'était ce constat-là au départ. En faisant un protocole expérimental avec mes élèves et en comparant les jours où on avait mangé et les jours où on n'avait pas mangé, on s'est rendu compte que effectivement les jours où on avait pris ce petit déjeuner, on était beaucoup plus engagés dans notre journée d'école que les jours où on l'avait pas pris. Mais après, très vite, ça a créé dans la classe une ambiance assez coopérative et solidaire, et c'est surtout ça qui m'a donné envie de continuer ce projet.
Vous avez combien d'élèves aujourd'hui dans votre classe ?
22.
22. Combien arrive le ventre vide le matin ?
Alors aujourd'hui, plus beaucoup, puisque c'est un projet qui fonctionne plutôt bien. Et il y a un lien avec la maison aussi. C'est ça aussi.
Ah, c'est-à-dire que donc, vu que vous avez sensibilisé les parents au fait que les enfants arrivent le ventre vide, il y en a moins qui zappent le petit déjeuner le matin.
Voilà, exactement. D'accord. Dans ma classe, en tout cas, j'ai noté ça.
Et à l'époque, donc... pour avoir une idée, combien d'élèves arrivaient le ventre vide ?
À l'époque, c'était un quart de la classe qui avait... Alors non, c'était un quart de la classe qui avait mangé.
Ah, un quart qui avait mangé. Donc on avait 15 enfants qui arrivaient sans petit-déj.
C'est pour ça que ça m'avait vraiment interpellée à l'époque.
Oui. Et c'était pour des raisons économiques, pas assez d'argent, ou c'était parce que « maman, papa, j'ai pas faim ».
C'était vraiment pour diverses raisons, et c'est toujours les mêmes raisons aujourd'hui. Alors effectivement, il y a des enfants qui mangent pas le matin, et ça c'est pas à négliger, parce que c'est vrai que la raison économique, elle existe. Il y a aussi des enfants qui ont pas envie, qui ont pas le temps, qui ont pas faim, qui ont mal au ventre, qui se lèvent tout seuls et qui du coup ne peuvent pas prendre de petit déjeuner. Donc il y a vraiment diverses raisons.
Oui, et donc il faut les accompagner lorsqu'ils arrivent à l'école. Avec tout type de produits, qu'est-ce que vous mangez finalement ?
Alors c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est que ça permet de découvrir des aliments qu'on connaît pas forcément, ça permet de découvrir de nouveaux goûts, donc de favoriser le courage, la créativité, la découverte. Et puis ça permet aussi d'apprendre ce que c'est manger équilibré, et puis d'apprendre aussi ce qu'il y a dans ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on va faire, on va apprendre à faire des choix de consommateurs. On va pas forcément dire qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas manger, parce que l'idée c'est pas de brimer les enfants ou de remplacer les parents, mais l'idée c'est de développer un esprit critique pour faire en sorte que l'enfant, en grandissant, il sache ce qu'il a dans son assiette et puis qu'il devienne un consommateur averti.
Est-ce qu'il y a des scènes ou des remarques qui vous ont particulièrement marqué ou étonné à l'occasion de ces petits déjeuners organisés deux fois par semaine avec vos élèves ?
Ce qui m'a souvent marqué, c'est les aliments que les enfants ne connaissent pas, parfois des aliments comme les kiwis ou des aliments vraiment basiques qu'ils n'ont jamais goûté et auxquels ils n'ont jamais eu accès. D'autres fois, c'est le fait qu'ils s'enthousiasment en mangeant du fromage le matin alors que je me disais que c'était complètement impossible qu'ils apprécient ce genre d'aliments. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est l'ambiance qui est créée dans la classe, la curiosité qu'ils ont, l'engagement, l'envie qu'ils ont de partager ce moment-là. Et en fait, finalement, après, ça rayonne sur toute ma journée de classe.
Qui paye ces petits déjeuners? Comment vous avez réussi à faire financer cette initiative?
Au départ, j'ai cherché des mécènes pour financer ce projet. Ensuite, les parents ont participé avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et depuis 2019, c'est le plan pauvreté du gouvernement qui finance le projet dans les écoles en France.
Pour l'année scolaire 2023-2024, ce projet avait été déployé dans 2023 écoles au sein de 483 communes en France. Au départ, en 2019, l'objectif, c'était que toutes les écoles soient concernées. Qu'est-ce qui bloque encore, selon vous, Céline Allaire ?
Je pense que c'est un projet qui est peut-être méconnu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on entend souvent que ce projet n'a pas forcément sa place à l'école, et je le comprends.
Qui vous dit ça ?
Alors ça, je ne sais pas vous dire qui exactement, mais en fait, je comprends cette
Non, mais vous dites, moi, j'entends que ce projet n'a pas sa place à l'école. Vous l'entendez bien de quelqu'un ou de quelque part ?
Bon, ce qu'on peut lire dans les médias, sur Internet... De ce qui a été pu être dit de ce projet, et c'est quelque chose que je comprends, parce que moi j'utilise ce projet-là comme un vecteur pédagogique dans ma classe, donc pour enseigner les différentes matières, pour faire de l'éducation au développement durable. Donc pour moi c'est un vrai outil pédagogique, et je le vois comme ça, je le vois pas juste pour nourrir les enfants. Donc c'est ce que j'ai développé et ce que je cherche à développer, et c'est pour ça que je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour pouvoir en parler et pour dire que c'est un vrai outil pédagogique. C'est pas seulement nourrir des enfants à l'école, parce que évidemment le rôle de l'école, c'est d'éduquer les enfants.
Est-ce qu'il serait souhaitable, vous faites ça deux fois par semaine, de passer de deux fois à quatre fois?
Alors l'idée, c'est qu'il y ait un vrai échange avec la famille et avec les parents. Donc les deux fois, elles sont réfléchies, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'après, voilà, l'idée, c'est que ça influe dans la famille aussi, et que ça continue dans la famille, et qu'il y ait un va-et-vient de ce projet dans la famille et dans l'école.
Oui, et même sans passer à la généralisation, tous les jours de la semaine, vous vous rendez compte que ça progresse dans les familles. C'était un quart des enfants qui avaient pris leur petit-déj il y a 10 ans, c'est beaucoup plus aujourd'hui.
C'est ça, exactement. Et puis les habitudes de consommation qui changent aussi. Et puis l'engagement des enfants dans les tâches à la maison, même dans les relations familiales, où on va peut-être plus manger à table, on va faire attention à moins mettre la télé, on va faire attention à avoir plus de sommeil, on va pouvoir aborder toutes ces questions-là qui sont importantes, parce qu'en fait, l'état de l'enfant, l'état physiologique de l'enfant, il va induire après dans sa journée d'école. Donc s'il est fatigué, s'il n'est pas en très bonne santé, ou même en bonne santé mental, il va pas être efficient à l'école.
Donc aujourd'hui, il y a moins de différence dans votre classe entre les jours où vous faites le petit-déj le matin et les jours où vous ne le faites pas ?
Oui.
Ouais. Donc changement majeur. Patrick est avec nous en ligne, oui. 01 45 24 7000. Bonjour Patrick, depuis le département du Var. Nous vous écoutons. Ancien prof ou prof toujours ?
Ancien prof, je suis en retraite.
Nous vous écoutons, Patrick.
Bon, écoutez, moi j'ai eu une classe de CAP pendant des années, proche de la retraite, et c'était des gosses en difficulté, j'imaginais une migration compliquée, et donc je faisais
C'était quel CAP, Patrick ?
CAP maçon et MBC, peu importe. Uh-huh. Bâtiment. Donc ces gamins, ils étaient en difficulté, déchets de société, donc je faisais un petit déjeuner à 9h, j'avais de 8h à 10h, un petit déjeuner à 9h, à la cafétéria du lycée. J'ai payé le croissant, j'ai payé le jus d'orange, le café, le chocolat.
Vous payez tout ?
Non, j'ai rien. C'était entre 5 et 10 euros. Voilà.
Et vous faisiez ça tous les jours, Patrick ?
Non, pas tous les jours. Une
fois par semaine. Et vous avez constaté que ça a changé l'ambiance dans la classe, ouais ?
Ça a mis un lien entre les élèves, entre moi et eux. Et on bossait après, on bossait. Et on bossait comme on pouvait. mais on bossait.
Et il y avait peut-être une relation, voilà, oui, différente entre vous. Alors là, Céline Allers, ce sont des élèves du primaire, vous, c'était plus âgé. Mais ça changeait l'ambiance de la classe.
Ils avaient entre 15 et 17 ans, 17 ans. Voilà.
Merci,
les
Patrick.
En difficulté. Voilà.
Merci, Patrick, pour ce témoignage. Céline Allers, est-ce que ça peut se faire finalement à tous âges? Vous, ce sont des primaires, mais est-ce que ça peut se faire, ou est-ce que ça se fait d'ailleurs au collège ou au lycée?
Alors ça se fait aussi à l'école maternelle, et ça c'est vraiment important de le souligner, parce qu'en termes de langage et de coopération d'enfants, je pense que c'est vraiment bénéfique. Ça se fait au collège, au lycée je ne sais pas.
Mais vous avez des échanges, je suppose, avec beaucoup de profs de France qui vous appellent, ou qui peut-être vont le faire davantage là, avec la finale du meilleur prof du monde.
Avec beaucoup d'enseignants, j'échange, et ce qui est intéressant, c'est que ce projet, il a plein de facettes différentes en fonction de qui va s'en emparer et de comment on va s'en emparer pour le mettre. C'est-à-dire que on sait que on va nourrir les enfants. Après, la façon dont on le fait, le moment où on le fait et ce qu'on en fait ensuite pédagogiquement, c'est chaque enseignant qui va s'en emparer en fonction des besoins qu'il a dans sa classe et du public qu'il a en face de lui. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce projet-là, comme c'est un projet multifacette. On peut s'en emparer comme on veut.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que deviennent les élèves qui sont passés par votre classe, qui ont gardé ce souvenir, et qui, je crois, ont gardé un lien avec vous, et ont gardé des souvenirs de ces petits déjeuners.
Alors, j'ai gardé beaucoup de liens et beaucoup de contacts avec mes anciens élèves, effectivement. Et puis, j'ai ma première promotion d'enfants avec qui j'ai commencé à faire ce projet-là, qui, il y a quelques temps, est revenu me voir. Donc, ils ont tous une vingtaine d'années. Uh-huh. Et puis, ils m'ont fait une belle surprise. Ils m'ont organisé eux-mêmes une sorte de petit déjeuner. Et puis, pour me dire, ben voilà, maîtresse, c'est quelque chose dont on se souvient. Et c'est assez émouvant c'est assez émouvant en tant que professeur de vivre ça, effectivement.
Est-ce qu'il y a des petits déjeuner alsacien, Céline Allers, d'organiser.
Oui, on a testé le Münster, effectivement.
Münster au petit-déj, d'accord. Et quoi d'autre?
Ça a plutôt bien marché.
Ça a bien marché.
Après, ce qui marche bien, c'est les Menele en décembre, les petits bonhommes en brioche, parce que c'est aussi ça, ça permet de travailler les traditions, les fêtes du calendrier, de faire du lien avec l'actualité. Dès qu'on peut, en fait, on utilise ce moment-là pour faire du lien avec la réalité des enfants.
Et vous avez la chance d'être dans une région avec de très riches traditions gastronomique. Merci Céline Allers d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14 aujourd'hui pour partager ce projet qui a donc fait tache d'huile depuis 10 ans et qui va continuer de le faire. En tout cas, on vous le souhaite. Merci également à Ici Alsace pour la liaison technique. 13h46. Notre feuilleton avec les grandes voix du doublage, ces comédiens français qui prêtent leur voix aux stars américaines du cinéma. Nous passons la semaine avec eux et aujourd'hui avec Jean-Pierre Michel, voix française entre autres de Brad Pitt. Nous nous interrogeons sur l'avenir de ce métier menacé par l'intelligence artificielle. Cécile Bido l'a suivi lors d'une formation au doublage qu'il donne à des comédiens.
Il y a deux choses. Il y a l'intelligence générative, c'est-à-dire qui part de rien. On va juste lui dire, voilà le texte que l'acteur dit, et tu me crées une voix à partir de phonèmes d'une voix enregistrée, et qui est ça. Ça, pour l'instant, c'est très mauvais. Et puis, il y a l'autre intelligence artificielle qui, elle, va prendre le jeu original de l'acteur, Brad Pitt ou autre, le timbre original de l'acteur, et qui va juste changer la langue, en fait. Moi, je suis pas très inquiet pour Brad Pitt, parce que je sais que si les gens voient tout d'un coup une VF avec la vraie voix de Brad Pitt, ou la vraie voix de Keanu Reeves, ils vont être choqués, parce qu'ils sont habitués, malgré tout, à la mienne, et que ça va leur poser un problème, cette dichotomie sera un peu perturbante. Mais c'est vrai que dans l'avenir, à mon avis, c'est ce qui se passera, c'est que les comédiens originaux, sous échange de sous, laisseront ces droits-là. On ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas si l'intelligence artificielle nous remplacera ou pas, il n'y a aucune décision qui est prise. Tout ce que je sais, c'est que nous, on fait partie des choses les plus essentielles, c'est-à-dire les émotions, l'humain, et que c'est très difficile de remplacer ça par de l'intelligence artificielle. Regarde ce que tu as fait, cette première phrase, écoutons, et écoute après, juste après la VO, tu vas voir.
Qui sont-ils pour me faire la leçon?
Stop, la VO.
Who would they to lecture me?
Voilà. Tu arrives en colère au début. Qui sont-ils? Il est là-dessus au départ. Ok? Donc on reprend, et avec cette énergie-là. Je t'arrête si ça va pas, si t'es pas dedans. Serrez-vous. Vous mettez pas trop loin. C'est un acte d'amour, le doublage. Mettez-vous l'un à côté de l'autre, bien parallèle. c'est éthiquement que les choses sont importantes à poursuivre, c'est-à-dire que le doublage s'adresse à l'émotion de celui qui l'écoute. Si demain, on nourrit tout ça uniquement d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il ne soit créé par aucun humain, il peut y avoir, à mon avis, éthiquement, des dégâts émotionnels dans une sorte d'émotion fake qui ne soit plus connectée à de l'humain.
Et en France, c'est une industrie, ce sont des emplois qui sont en jeu.
Il y a plus de 15 000 personnes qui vivent de ce métier en France. Donc c'est vrai que tout d'un coup, remettre ça en jeu veut dire immédiatement sacrifier toutes ces personnes.
Attendez, où vous allez ? Hey, attendez ! Je voulais seulement vous remercier d'avoir tué ces bestioles. Ah ! Hey !
Ne dis pas merci. On ne dit pas merci pour ça. C'est triste, ça. Triste seulement.
Attention, Christophe, tu vas voir le moment où tu te lèves. Écoute bien.
Où vous allez ? Attendez, où vous allez ?
Tu vois, il faut que tu la retiennes plus. Attendez, qu'est-ce que vous allez ? Attendez ! On essaye de refaire un tour avec ça ?
Pourquoi cet intérêt pour le doublage ?
On doit doubler des gens qui jouent pas forcément comme nous, qui n'ont pas forcément à la base la même voix, etc.
Lila Tamazit.
Gaïa Varnant.
Justine Sen.
Il faut justement qu'à travers la voix, on perçoive ces expressions d'être dans l'effort quand le comédien à l'image est dans l'effort, d'avoir ce regard triste, ces sourcils un peu froncés comme ça quand il se joue quelque chose aussi de la colère ou d'autres sentiments.
Il y a heureusement des comédiens et des comédiennes qui se battent justement pour garder ses droits et pour garder la place de l'humain dans ce milieu. Donc c'est sûr que ça nous traverse, mais on va tout faire pour que l'humain garde sa place dans tout ça.
Cécile Bideau pour ce feuilleton dans une semaine si importante pour le cinéma, les Césars demain, les Oscars dimanche.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marilus Ribot. Marilus, vous avez été interpellée par le succès de Nada El Hanini. 260 000 followers sur Instagram. C'est l'une des coqueluches en France de la cuisine marocaine.
Exactement. Nada a 28 ans. Elle a grandi à Lyon, a fait des études de droit, intégré un cabinet de juriste, mais s'est vite aperçue qu'elle avait emprunté ce chemin sans passion. Comme beaucoup, son destin a basculé pendant le Covid. Elle s'est intéressée à la cuisine marocaine, celle de son enfance, en se demandant comment matcher des recettes ancestrales avec ce désir des jeunes générations de se nourrir plus sainement. C'est ainsi qu'est née Natsnack sur les réseaux, la chic fille qui nous propose de préparer sans gluten un couscous ou un herbel, une délicieuse bouillie épicée. Ses idées font mouche, elles sont modernes. Aujourd'hui, elle est autant suivie par les trentenaires d'origine maghrébine que par ceux qui ont été biberonnés au cassoulet.
Comment cette cuisine s'est-elle diffusée ?
Cela fait déjà de nombreuses années que le couscous est dans le palmarès des 10 plats préférés des Français, signe qu'il appartient à notre culture gastronomique. Mais pour Abdel Alaoui, chef de plusieurs restaurants parisiens, ancien animateur culinaire sur France 5, cette passion est aussi liée au récent boom touristique que connaît le pays, plus 20% en 2024. Beaucoup de visiteurs sont français. Ils reviennent avec un nouveau regard sur cette cuisine et l'envie de la retrouver chez eux. De fait, Jérôme, Marrakech vient d'être élu par TripAdvisor la troisième meilleure destination gastronomique du monde. On découvre qu'il y a des plats légers, des salades savoureuses, beaucoup de poissons, des propositions végétariennes, souligne Abdel. Il est l'un des artisans de ce renouveau en France. Il a fait ses armes chez les chefs étoilés Pierre Gagnaire et Michel Rostand, mais ses racines culinaires l'ont rattrapé. Je ne regrette rien, c'est passionnant de vivre ce moment où la cuisine marocaine sort de la domesticité pour devenir gastronomique. Je peux marier l'huile d'argan avec de la betterave pour créer un houmous, jongler avec l'idée de la soupe harira dans des falafels. Tout est permis parce que les Français sont devenus friands de ces saveurs.
Et puis il y a, Marilus, cette culture du plat qu'on partage.
Oui, et c'est important. Les Français adoptent ces façons de manger typiques des cuisines du Sud, qui sont conviviales et qui rassemblent, nous dit Amine Khalil, directeur général de la marque Dari, le leader marocain de la semoule. La France est son premier marché à l'export et il a doublé en 10 ans.
Et on imagine donc que la période de Ramadan qui va s'ouvrir samedi sera un mois important pour cette gastronomie.
Oui, dans ces restaurants, Abdel Alaoui organise le ftour, la rupture du jeûne, comme un moment festif. Je propose un menu ramadan avec moins de friture et de sucre, nous dit-il. Et je reçois beaucoup de Français non musulmans qui veulent connaître ce rite. Quant à Nada, elle a posté il y a 10 jours une proposition de 12 plats sans gluten pour le ramadan.
C'est donc l'heure de la recette. Que nous propose-t-elle ?
Un délice issu de son livre « Ma cuisine marocaine, 70 recettes twistées de Paris à Marrakech ». Pour deux personnes dans une marmite chaude, faites saisir une cuisse et un blanc de poulet dans de l'huile d'olive. Ajoutez et faites revenir deux oignons émincés, une cuillère à café de gingembre, une de curcuma, une de ras el hanout, 5 filaments de safran. Versez 1 litre de bouillon de poulet, 200 g de lentilles, un bouquet garni de coriandre et de persil. Couvrez et laissez cuire 40 minutes. Effilochez le poulet, ajoutez un œuf mollet par personne, 5 cuillères à soupe d'amandes concassées. Et puis dégustez avec des mesmen, des sortes de petites crêpes feuilletées. Ce plat est sa version déstructurée de la herfissa, une spécialité de Fès, et pardon pour la prononciation.
Vous êtes toutes pardonnées. Merci Marie-Luce Ribot du journal Sud-Ouest. De C'est la France à C'est une chanson. C'est avec la comédienne Jeanne Savary que vous parlez chanson aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Jeanne Savary qui joue actuellement au théâtre à la scène parisienne dans En attendant Albert et qu'on a beaucoup vu à la télévision depuis une trentaine d'années dans la série Caméra Café notamment, puis dans la série En famille et avant cela dans la série Nestor Burma, aux côtés de Guy Marchand, et c'est la voix de Guy Marchand qu'elle a souhaité que l'on écoute avec son génial premier tube, La Passionata.
Quand j'ai entendu cette chanson, ça m'a paru comme un uppercut, quoi, comme un truc complètement délirant, comme un ovni, tout ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime un peu dans les chansons qui soient un peu comme des pièces de théâtre où la personne déconne, mais en même temps c'est fait d'une façon hyper classe. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Et c'est une chanson, je trouve, qui donne de l'énergie, qui donne de la joie, qui donne envie de sourire, de déconner, de chanter à tue-tête, de s'amuser, voilà.
C'était à quelle période de votre vie, vous rappelez à peu
près ? Je me rappelle plus très bien, mais c'était peu de temps, en fait, avant de rencontrer Guy Marchand, avant de travailler avec lui comme secrétaire dans Nestor Burma. Et donc, quand j'ai su que j'étais prise pour travailler avec lui dans cette série, j'étais super contente parce que je me suis dit, un mec qui a fait une chanson comme ça, de toute façon... Il doit être génial, quoi. Même s'il est chiant, c'est pas grave.
Avec toi, il faudrait toujours vivre. La passionata. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Que je chante en fa en sol tous les airs de flamenco.
En 1965 qu'est sortie cette chanson de Guy Marchand, Frédéric.
Une chanson écrite au départ pour amuser ses copains alors qu'il était engagé dans la Légion étrangère en Algérie. Et c'est aussi pour les prouesses vocales dont il fait montre ici que Jeanne Savary aime autant la passionata.
Quand il chante, déjà, il fait pas d'effort. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il fait un effort. Quand il fait avec toi, il faudrait toujours vivre. C'est hyper posé, hyper calme. Puis après, ça part dans un truc complètement délirant, mais qui ne casse pas les oreilles. Et je le trouve hyper touchant. Parce que là, tout est harmonieux, quoi. De la voix de crooner au contrut, il faut quand même le faire. Ça passe crème, quoi.
Grand chanteur, Guy Marchand.
Un grand, grand, grand chanteur.
C'est un artiste qui a marqué votre carrière, du coup.
Eh oui, c'est un artiste qui a marqué ma carrière, bien sûr, puisque c'est une série qui m'a un peu installée en tant que comédienne, quoi.
La secrétaire de Nestor Burma.
La secrétaire de Nestor Burma, on a bien rigolé. On a bien rigolé, puis je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hommages à sa mort, j'ai pas très bien compris pourquoi, et donc je suis contente de pouvoir essayer de lui rendre hommage en disant pas trop de conneries, mais enfin, je trouve ça un peu émouvant, quoi, quand même, je suis contente.
Tu voudrais que je sois andalou, que je tombe à tes genoux, avec une corde au cou. Tu voudrais que je sois riche et beau.
Moi j'ai travaillé 6 ans, du coup, avec lui sur cette série Nestor Burma, on a fait 19 épisodes, et après, j'avais la velléité de faire de la musique et tout ça, et je bossais avec un groupe, et j'avais très envie de reprendre la Passionata.
La Passionata, la Passionata, la Passionata.
Et je l'ai appelé, Guy Marchand, je lui ai dit « Coucou, comment ça va ?»
j'aimerais bien reprendre ta chanson La Passionata, est-ce que tu serais d'accord ? Il me fait, mais oui, mais bien sûr, mais tu fais ce que tu veux avec cette chanson, je te donne les droits, fais ce que tu veux. Et puis je ne l'ai jamais fait.
Vous ne l'avez jamais chantée ?
Je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, je suis allée dans un studio, j'ai essayé de chanter la chanson. La voix de basse, ça va, mais alors le contrut, c'est même pas la peine, quoi. De toute façon, l'orchestration est géniale dans cette chanson, il n'y a rien à retoucher, c'est un diamant, c'est un petit bijou dont on ne se lasse pas, donc voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris comme prétention, mais ce qui était génial, c'était lui, sa réponse à lui, qui était complètement, mais vas-y, mais oui, fais ce que tu veux, amuse-moi, étonne-moi. En fait, c'est impossible, la chanson est parfaite.
Je n'ai pas de châteaux en Espagne. Mes pays sont de cocagne, je travaille chez
La Passionata. Guy Marchand, c'était donc Frédéric, le choix de Jeanne Savary.
Jeanne Savary, que vous pouvez retrouver au théâtre dans la comédie En attendant Albert, pièce de Patrick Menet, c'est à la scène parisienne.
Merci Frédéric, nous sommes destinés à nous retrouver demain, Frédéric, je
destinés,
vous dis donc.
Nous le sommes.
À demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est le programme de la Terre au Carré aujourd'hui ?
Eh bien, nous irons dans la tête de nos ancêtres préhistoriques.
À tout de suite.